Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes amis gratinés, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Et dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, Maëva Amadouche. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram et pourquoi pas aussi à lui faire un petit coucou, je vous laisse son compte, c'est tout simplement Maëva-8 Amadouche, je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Alors, qui donc est cette Maëva Amadouche? Oui, je suis en train de me frotter les mains en vous disant ça. 7 fois championne du monde de boxe féminine, Maëva trouve malgré tout le temps d'être en parallèle de ses entraînements policière au sein de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Laissez-moi vous dire que c'est une brigade réputée pour intervenir sur tout ce qui est violence urbaine ou événements à risque, et Maëva est l'une des 3 femmes sur 250 personnes de cette brigade. Impressionnant, je pense que ça vous situe un peu le personnage, absolument hors norme. Issue d'un milieu social très humble, durant l'adolescence, Maëva se cherche. Bagarreuse, dissipée, elle a besoin de canaliser son trop-plein d'énergie, et à 14 ans, elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle de Fabrice Chavard, son premier coach et son père spirituel, dit-elle, et tombe ainsi dans le monde de la boxe. Cela deviendra son échappatoire. Aujourd'hui, Maëva est devenue une icône du monde de la boxe. Elle est tout simplement inarrêtable. Comme vous allez le comprendre dans l'épisode, c'est pas du tout le fruit du hasard ou de la chance. Vous savez que j'ai un faible pour les interviews avec de grands sportifs parce que je trouve que leur discipline et leur abnégation pour une cause est absolument fascinant. Pour moi, le mental d'un grand sportif, c'est vraiment une source d'inspiration absolument inépuisable. Et avec Maëva, laissez-moi vous dire que vous allez vraiment être servi en la matière. Durant cet épisode, on a évoqué de nombreux sujets passionnants. Le travail de visualisation nécessaire pour anticiper un combat de boxe, les sacrifices endurés pour réussir, la difficulté du regard des autres sur deux métiers avant tout masculins, le sport aussi, comme outil de discipline et de développement personnel, ou encore l'importance de bien s'entourer. Vous allez voir que derrière une image qui impressionne, clairement, Maëva est vraiment une belle personne et avec d'évidence un vrai cœur d'or. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Maëva Amadouche. Salut Maëva et bienvenue sur le gratin.
Salut Pauline.
Écoute, je suis ravie de t'avoir, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle et je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas mis déjà l'enregistreur sur marche? Donc en fait, je suis désolée, hein, ça va être redondant pour toi, mais moi en fait je suis contente et puis je suis sûre que l'audience va être ravie. Je vais te reposer des questions qui sont venues spontanément et que j'avais pas prévu de te poser au début. Concrètement, on parlait à l'instant de quand tu rentres sur le ring et notamment le fait que évidemment tu dois taper sur des personnes que souvent tu connais pas et donc il faut avoir un petit peu d'agressivité ou en tout cas, enfin voilà, faut quand même faire mal à des gens que tu connais pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue quand je t'ai posé la question, c'est que tu me dis, mais finalement, ça a quand même rien à voir le métier de la boxe avec plein d'autres métiers, parce qu'il y a justement ce côté, finalement, tu dois presque sortir de toi-même pour te projeter, te dire, je dois me préparer mentalement à taper sur des gens, à faire mal à des gens et moi-même à me prendre des coups, alors même que je connais pas ces personnes-là. Donc je vais te demander tout simplement, ce conditionnement mental, à quel moment est-ce que ça arrive? Parce que toi t'es Maëva dans la vraie vie, voilà, on discute, t'es hyper sympa, hyper friendly et tout, mais en fait quand tu montes sur le ring t'es presque une autre personne. À quel moment en fait est-ce que ça change? À quel moment est-ce que c'est quand t'arrives sur le ring? Est-ce que c'est quand tu te prépares lors des entraînements? Enfin, à quel moment est-ce qu'il y a ce changement presque psychologique, tu vois, qui arrive, où tu passes en mode ok, c'est bon, maintenant je suis une guerrière?
Alors ça, c'est des questions très très intéressantes parce que c'est ce qui fait la particularité de ce sport, de la boxe, hein, qu'on ne retrouve pas forcément dans les sports collectifs, même le rugby.
Bah,
la boxe, c'est vraiment soi-même face à son adversaire sur le ring, juste nous deux et un arbitre pour mener le combat. Et c'est vrai que je change au fur et à mesure, c'est-à-dire que déjà, la semaine avant combat, déjà, je me conditionne, je m'isole un peu plus. Je sors un peu moins, je suis un peu plus dans mon combat, un peu plus concentré. Sur les dernières phases d'entraînement, qui sont assez courtes, finalement, la dernière semaine du combat, quand je m'entraîne, je suis vraiment sur l'aspect puissance, force, efficacité, vraiment pour vouloir faire mal à l'adversaire. Déjà là, dans la dernière semaine, déjà, je suis dans le match, je suis dans le combat.
T'es déjà dedans, quoi.
Voilà. Le face-to-face, c'est-à-dire le moment de la pesée, la veille du combat, la veille au soir. Déjà là, c'est la première partie du combat parce qu'on voit l'adversaire.
Donc là, c'est un vrai truc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment physiquement où avant le combat, vous êtes...
Il y a vraiment une confrontation à ce moment-là. Il y a une confrontation quand on croise l'adversaire, on voit son regard, il y a le face-to-face. Parfois, des fois, ça part déjà un peu en bagarre à ce moment-là, c'est compliqué. C'est vrai, il y a un jeu de rôle qui se met en place, ouais. C'est-à-dire un jeu de rôle... Parce que notre adversaire, on sait qu'elle va nous regarder, voir comment on réagit, elle va nous jauger, tout ça. Puis on va la regarder physiquement. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est affûtée? Est-ce qu'elle me regarde dans les yeux? Est-ce qu'elle baisse les yeux? Est-ce qu'elle a le sourire? Est-ce qu'elle est plutôt chaleureuse, bienveillante? Ou est-ce qu'elle se montre déjà très agressive envers moi? Et tout ça, c'est des jeux de rôle. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on peut trouver une adversaire chaleureuse, bienveillante, accueillante, tout ça, très respectueuse, qui serre la main et tout ça. Et puis sur le ring, ça va être un vrai démon. Mmh. Et au contraire, une fille qui peut se montrer agressive lors de la pesée, va pas sortir les dents plus que ça lors du combat. Finalement, ça peut être un jeu de rôle, comme les grands boxeurs qu'on voit qui parlent, qui disent « oui, je vais ouais. », puis finalement, on s'attend pas, on n'a pas le combat tant espéré sur le moment.
Ouais.
Ça arrive. Donc le combat, c'est la veille, et le lendemain, bien sûr, la journée est conditionnée jusqu'à l'heure du combat. C'est-à-dire que la journée, c'est la journée la plus longue de la semaine, tout ça, c'est la journée du combat. On attend le combat le soir, c'est-à-dire que t'es dans ta chambre d'hôtel, tu fais rien. Alors le matin, tu te lèves, tu déjeunes.
T'attends et tu sais que tu vas attendre le combat
du soir, en fait. Et donc le matin, tu peux faire un réveil musculaire, mais c'est ce que je fais le matin. Je fais toujours un petit footing, tout ça, le matin du combat. Il y en a qui font rien, ça dépend des boxeurs. Donc je déjeune, je fais mon réveil musculaire. Puis souvent, on a une deuxième pesée le matin, donc c'est encore compliqué. Et la journée, donc on attend, le midi passe, on mange des pâtes, tout ça. On mange aussi à 16h en fonction de notre heure de passage le soir. C'est ça aussi qu'il faut regarder, l'heure de passage aussi en fonction de la télévision, parce que les combats commencent à 21h, heure de diffusion, le début des combats. Il faut savoir que les combats vedettes des championnats du monde, tout ça, passent souvent en dernier. Donc des fois, il faut attendre 23h, ou parfois, le combat féminin, ils le mettent par exemple juste avant ou juste après l'entracte. Juste après l'entracte, par exemple, pour que les gens restent après l'entracte, au lieu de partir, il reste pour voir le combat intéressant. Donc voilà, ça c'est aussi tout un système. Donc en fait, on attend notre moment. Donc des fois aussi, dans les vestiaires, moi je vais dans les vestiaires par exemple 2 heures avant le combat. Donc il y a les bandages pro qu'il faut faire avec quelqu'un qui vient superviser les bandages, voir comment on les fait. Tout ça, c'est très réglementé. Ensuite, il y a la caméra aussi, souvent de Canal ou une autre chaîne qui vient pour prendre la température, nous poser des questions, tout ça. Et il faut prendre en compte aussi ces caméras.
Ouais, tu joues le jeu un peu de la presse et tout avant, et ça te déconcentre pas, ça ?
C'est un travail, c'est vraiment un travail de concentration qu'il faut faire, parce que c'est pas évident de se mettre dans sa bulle avec les caméras.
Bah, c'est ça.
Avec les caméras dans les vestiaires, qui filme tout, qui filme l'entraîneur, qui filme tes bandages. T'as pas trop de moments à toi isolés. Tu les as au début de ta carrière, mais après, tu les as plus beaucoup.
Bah ouais.
Voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien faire dans les moments comme ça, c'est aller dans la salle discrètement, bien sûr, pour qu'on voit, prendre la température. En fait, prendre la température du public, parce que c'est un moment de show, la boxe c'est un show, et j'aime bien ressentir la chaleur dans la salle, les cris, le bruit des coups, la chaleur qu'on ressent, tout ça. C'est un moment très particulier dans les galas de boxe, c'est vraiment une ambiance particulière, c'est-à-dire que les gens sont là pour voir des KO, pour voir des chaos, pour voir des gens tomber, pour voir des gens se faire mal. Et donc, c'est vraiment une ambiance particulière, ouais, la boxe. C'est vraiment particulier. Donc, je vais dans la salle pour ressentir cette ambiance-là, m'imprégner de tout ça. Parce que c'est sûr que d'investir tout seul pendant des heures, à monter sur le ring, à rentrer comme ça avec une musique, tout ça, en voyant les gens qui, soit qui t'applaudissent, ou à l'inverse, t'entends que voilà, t'es pas forcément apprécié, tout ça, des insultes ou autre, bref, et ça, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça, il faut s'imprégner avant tout ça, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'on te prend et qu'on te pose sur le ring à ce moment-là. Et c'est particulier, c'est...
Oui, il y a pas de, c'est ok, t'as la pesée, mais il y a pas de transition. C'est direct, voilà. Bam, t'arrives, il y a 1000 personnes autour de toi et tu dois faire carré voilà. Quelqu'un. C'est quand
c'est
même
clair. Donc tu t'échauffes, on met tes gants, on scotche les gants, tout ça. Tu commences à t'échauffer avec l'entraîneur. Là, les caméras sont là pour te voir t'échauffer. Après, t'entends qu'on t'appelle, on te dit bon, Maïva, c'est à toi. Il reste 2 rounds. Et on est toujours à l'affût du chaos parce que des fois, s'il y a un chaos avant, mais tu vas monter sur le ring un peu plus tôt. Donc ça, faut le prendre en compte. Ok, donc du coup, Maïva, à toi dans 2 rounds. Maïva, 1 round. Maïva, c'est à toi, allez, on y va. Ok, là, ça y est, la pression, elle est au top, au summum.
Genre pic d'adrénaline,
c'est
de malade.
Quand on te dit,
tout.
Voilà, c'est à toi de monter sur le ring, t'as juste envie d'aller dans les toilettes et t'enfermer à double tour.
J'allais te poser la question, je veux savoir, mais est-ce que parfois,
là,
tu dis,
je crois que je
envie,
me suis trompée, je peux rentrer chez moi. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Et des fois, on se le dit, on se dit, mais en fait. Mais qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je suis allée mettre encore? Surtout des combats comme ça, on sait que ça va être des combats durs, ouais. Des gros combats. Donc on se dit, qu'est-ce que je fais là? Vraiment. Donc du coup...
Et comment tu passes, Maëva, de qu'est-ce que je fais là à 2 minutes plus tard? En gros, t'as toute ton énergie. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos toi, on sent, mais t'es à 400% dans le moment, quoi. T'es vraiment... t'es là et on sent que t'as qu'un objectif... c'est de mettre KO la personne en face de toi. Alors, comme on le disait précédemment, tu la connais pas en plus.
C'est sûr. Mais je pense
comment
que le corps et l'esprit se mettent en sécurité à ce moment-là. Je pense qu'il y a un instinct de survie qui ressort de chaque personne dans ce moment-là. C'est ça qui est intéressant dans la boxe. Il y a un vrai instinct de survie, c'est qu'on se dit à ce moment-là, c'est soit elle, soit moi. C'est-à-dire, soit je vais tomber devant tout le monde et je vais prendre des coups et tout, ça va être très dur pour moi. Je vais passer un sale quart d'heure et là, les minutes, on les compte, les secondes, on les compte. Ouais. Tout est long dans ces moments-là. Soit c'est moi le boucher et c'est elle le veau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, non, mais c'est.
Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Non, mais c'est bête à dire, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, à un moment donné, si on veut pas subir tout ça, il faut faire les choses. Et donc, à un moment donné, on n'a pas le choix, en fait. Ouais. On est jeté dans l'arène. Comme les gladiateurs des temps modernes, les boxeurs. On est jeté dans l'arène et débrouille-toi tout seul. Tu es tout seul sur le ring. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Donc, à un moment donné, il peut se passer n'importe quoi dans ta vie de tous les jours. Déception, tout ça. Tu mets tout ça de côté. Il n'y a plus rien qui compte. La seule personne qui compte à ce moment-là, c'est l'adversaire. Il n'y a qu'elle qui compte. Il n'y a que cette personne-là. Il faut te focaliser juste sur ça. Et ça, c'est vraiment, il faut que tu trouves les ressources en toi qui te permet d'avoir cette agressivité. Parce qu'un champion du monde de boxe, il est forcément méchant à un moment donné. Il faut passer un palier. C'est-à-dire que...
C'est la différence entre le bon boxeur et le champion du monde.
Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être technique et tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut passer un cran au-dessus, c'est-à-dire vouloir faire vraiment mal à son adversaire et soi-même passer les difficultés du physique. C'est-à-dire le physique, des fois, on va prendre des coups qui vont nous faire mal. On va être à bout de souffle. Des fois, on va être là, non mais je suis à bout là, je peux pas donner. Mais en fait, aussi, on va trouver les ressources. Et pour passer au-delà de ça, mais les ressources surtout mentales, en fait, finalement. Parce que des fois, sur le ring, c'est tellement dangereux. Quand on prend des coups, qu'on se rend compte que la personne, finalement, des fois, on se dit, waouh, ça frappe en face. Quand tu prends les premiers coups, parce que les gants sont durs, les bandages sont durs, on boxe avec du 8 et des petits gants. Les premiers coups que tu prends, ils marquent tout de suite. Donc là, on se dit tout de suite, monte les mains, surtout. Là, tu montes les mains, t'en prends un, t'en prends pas deux. Hein. Donc, monte les mains et quand tu sens que c'est dangereux, tu dis, en fait, tu essaies vraiment d'esquiver, mais pas juste comme ça, c'est pour ton bien-être à toi. Pour ton bien-être à toi, il faut esquiver parce qu'en fait, ça va super vite. Sur un ring, en fait, au-delà de 3 coups, au-delà de 3-4 coups, plein pot, pris plein pot, des fois un s'il est bien placé, mais au bout de 3-4 coups, déjà, c'est différent. Déjà, c'est-à-dire qu'au-delà de 3-4 coups, déjà, t'es plus dans ton état normal, t'es sonné déjà. Et là, ça va vite, ça va très vite. C'est-à-dire que si t'as plus la lucidité pour bloquer ce qui arrive et faire face, là tu tombes. Donc en fait il suffit de quelques secondes, quelques coups qui passent en trop que tu t'autorises à prendre, et là ça y est, ça bascule. Le combat peut basculer d'un moment à l'autre, et t'as beau être fort, hein, ces moments-là, tout le monde a le même cerveau, tout le monde a la même tête. À un moment donné, si tu prends les mauvais coups placés au bon endroit, tu tombes, quoi. Tu tombes. Et tu peux être aussi fort que tu veux, tu tombes. Donc, faut être super humble, c'est-à-dire pas s'autoriser à faire... Il y en a qui arrivent, mais moi, je ne m'autorise pas à faire certaines choses sur le ring, baisser les mains, narguer, tout ça. Je ne fais pas trop ça. Moi, ce n'est pas trop dans ma boxe. Il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Je fais partie de ces boxeurs qui sont... simple, humble, tout ça, mais qui font le boulot quand on leur demande. Et voilà, après, il y a de tout. C'est ce qui fait aussi la spécificité de la boxe, c'est que chacun a sa personnalité, chacun vient avec sa boxe. Il y a autant de boxe que de boxeurs, quoi. Donc, chacun vient avec sa personnalité. Ce qui est marrant dans la boxe, c'est que tu boxes comme tu es dans la vie de tous les jours. C'est marrant.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie de tous les jours, si tu es quelqu'un qui peut fuir les problèmes et la douleur... Tu vas le retrouver sur le ring, quelqu'un qui est un peu
défensif ou...
Oui, mais quelqu'un, par exemple, qui... Comment t'expliquer ? Qui est authentique, qui est sincère, qui ne sait pas tricher. Tu vas le voir sur le ring parce qu'il va être authentique, sincère, il ne va pas avoir de vice. Quelqu'un qui est très vicieux dans la vie de tous les jours, qui est truqueur, vicieux, tout ça, il va avoir ce vice-là sur le ring. Ce vice de truquer, tout ça... Et quelqu'un qui est offensif, qui est authentique, il va rentrer dedans, il va être des fois généreux même en prenant des coups qu'il ne devrait pas prendre. Et souvent, ce qu'on voit sur le ring, ça reflète la personne en vrai comme elle est dans la vie de tous les jours, en fait. Et le ring, parce que sur le ring, tu ne peux pas tricher dans ta façon d'être intérieure, dans ton intérieur
profond.
Oui,
c'est parce que tu es dans le réflexe.
Tu ne peux pas tricher. Donc, ce qui va sortir dans ces moments de dernier recours, ce qui va sortir, c'est ta vraie personnalité. C'est vraiment ça. Et t'as des boxeurs qui vont lâcher alors qu'ils pourraient finir, qu'ils pourraient continuer. Et ils vont lâcher parce qu'ils n'auront pas le mental. Et ça va refléter la personne qui sont dans la vie de tous les jours.
Hyper intéressant.
Et on boxe comme on est dans la vie. Tu as des boxeurs qui vont être vicieux, truqueurs. Et bien ça va refléter la personne qui sont dans la vie de tous les jours. Pas forcément en apparence, mais vraiment leur personnalité. Et ça, j'ai remarqué dans la boxe.
C'est dingue. On va revenir sur la boxe, Maëva, mais en fait, je voulais quand même te demander comment diable t'étais tombée dans le métier de la boxe. Bon, on va en parler, tu fais pas que ça, t'as plusieurs casquettes, mais je trouvais quand même assez étonnant. Alors, j'ai lu des choses sur toi, mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier sport auquel on pense, notamment pour une petite fille, et je trouve ça hyper cool, justement, de se dire que, ben non, en fait, contre l'image, tu vois, on peut être une nana et être... Combien de fois championne du monde ?
7.
7 fois championne du monde. Non, mais c'est dément. C'est dément.
C'est donc, dément. Il manque plus qu'un titre olympique. Bah, et c'est
ça,
bon,
ça va venir. Ça va venir. Mais dis-moi, du coup, comment est-ce que tu es tombée dans ce secteur particulier de la boxe, notamment en boxe anglaise, quoi ?
Alors, en fait, avant, j'ai toujours fait du sport depuis petite. Hein. Je sentais que j'avais quelque chose à faire dans le sport. Quel sport, je sais pas. Oui, j'avais une énergie à revendre. Bon, il était utilisé à mauvais escient au départ, hein, parce que qu'est-ce à l'école, que par exemple, j'avais très mauvaise attitude, j'étais très turbulente, des bonnes notes, mais comportement, voilà, j'étais assez turbulente, de l'énergie à revendre, mais malheureusement, je m'en servais pas très bien. Un peu garçon manqué aussi, tout ça. Donc, je joue au football, je me bagarrais beaucoup, tout ça. Et en fait, j'avais cette énergie à revendre et je savais pas dans quoi le mettre, en fait. Et je sentais que j'avais quelque chose à faire. Je savais pas dans quoi. Et quand vers l'âge de 8-9 ans, je me suis dit, je vais être championne du monde. Mais je sais pas dans quoi.
Attends, tu t'es dit à 8-9 ans, je vais être championne du monde.
Quand je regardais les grands champions à la télé, j'ai dit, je vais être championne du monde. Je vais être championne du monde. Et des fois, j'étais devant la glace. Alors, on ne m'avait pas trop appris à boxer. Hein. J'étais là. J'avais enlevé mon t-shirt. Et je m'étais devant la glace. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et alors que je n'avais pas d'idée de boxe plus que ça, quoi. Et je faisais ça devant ma glace. À 8-9 ans, déjà, j'étais assez bagarreuse.
Mais tu avais déjà commencé la boxe à cet âge-là ?
Non,
même pas.
Non, ouais, c'est ça. Mais comme j'étais un peu bagarreuse, tout ça...
Ouais, c'était venu un peu spontanément.
Voilà, il y a un grand qui m'a dit, voilà, regarde, tu vois, quand tu mets un coup de poing, il faut bien virer comme ça. Et donc, le soir, devant ma glace, je faisais ça. Et je faisais des pompes et tout, alors que je ne savais pas du tout pourquoi je faisais ça, quoi. Ok.
C'est énorme.
Ouais, c'est dingue. Et après, je me suis mis au football. Mais l'esprit d'équipe, tout ça, ça ne me correspondait pas trop. Parce que dans l'esprit d'équipe, voilà, y a encore des clans dans l'équipe, tout ça, des groupes plus ou moins formée, donc, et moi j'avais du mal à trouver ma place, puis il n'y avait pas assez de contact physique, puis à l'époque le rugby féminin n'était pas développé comme maintenant, donc il n'y avait pas de contact physique, il y avait l'entraînement du mercredi et le match du samedi. Mais comme au match du samedi, j'avais été très turbulente, on m'enlevait le match du samedi. Donc je me retrouvais avec l'entraînement du mercredi, donc pas grand chose. Donc finalement, ça, le problème n'était pas résolu, quoi. Donc je me suis, et un jour, je suis tombée sur une affiche de boxe pied-point, boxe française, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et donc je rentre dans cette grande salle et je dis à l'entraîneur, oui, ça se passe comment la boxe? Il me dit, ben ça se passe bien. Il me dit, ah, d'accord, ok, ça répond super bien à mes questions.
T'avais quel âge à l'époque, Maëva?
J'avais 14 ans. J'avais 14 ans et il me dit, ah, mais vu ton gabarit, et je m'en souviens très bien, il me dit, vu ton gabarit, tu vas passer avec les adultes. Et moi, tout de suite, je me suis sentie renforcée, quoi. Mmh. Parce que j'avais besoin un peu de cette reconnaissance-là, déjà petite. J'avais besoin de cette reconnaissance-là, de cette importance et cette phrase, cette phrase...
Oui, t'as pris au sérieux, quoi.
Oui, il m'a pris au sérieux tout de suite. Et ça, je me suis dit, waouh, il m'a pris au sérieux. Regarde, il dit que je suis costaud, il dit que je suis bien, il dit que je passe avec les adultes et tout ça. Donc, ouais, il me prend au sérieux. Donc, je vais venir tout de suite, quoi. Donc, et au début, je n'avais pas de quoi m'acheter des chaussures de boxe et je boxais avec des ballerines de danse. Ah. Et parce que je n'avais pas les moyens de me payer de super chaussures de boxe, côté assez cher et tout ça. Donc, je m'entraînais avec des ballerines, quoi. Et je m'entraînais avec ça et je faisais du pied-point le premier cours, je m'en souviens comme c'était hier, il y a de la corde à sauter et on nous avait interdit de mettre les gants au premier entraînement et moi j'étais très frustrée parce que je voulais tout de suite mettre les gants, apprendre à boxer parce qu'au début ce que je voulais dans la boxe c'était un peu cette bagarre hein, au début. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique. Aussi, voilà, maintenant, oui, je suis dans la technique, mais au début, je cherchais plus. Je me suis dit, oui, comme ça, je vais trouver des gens qui vont vouloir se battre avec moi et personne ne va rien nous dire parce qu'on aura le droit, quoi. Au départ, c'était vraiment ça, c'était basique, voilà. Et donc, les pompes, tout ça. Donc, premier entraînement, je suis sortie de là, j'étais lessivée. Je me dis, non, mais là, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut, vraiment.
Oui, tu avais besoin d'un truc qui te calme,
ouais, qui te canalise, quoi. Les jours passés, j'essaie d'aller aux entraînements, mais le plus fréquemment possible. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Après, j'allais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Voilà, le week-end, l'entraîneur me prenait en compétition pour que je vois un peu comment ça se déroulait. Tu as
tout de suite senti que c'était vraiment ton sport?
Ouais, tout de suite. Dès le premier entraînement, j'ai dit je ne vais pas rater un seul entraînement. Voilà, maintenant, c'est fini. Je ne rate plus un seul entraînement. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé plus qu'un sport, j'ai trouvé une famille aussi là-dedans. J'ai trouvé une famille dans ce club-là, parce qu'il faut savoir que l'entraîneur de boxe, par exemple, pour les compétitions, regardait mes bulletins scolaires. Il disait, oui, tu vas pas à la compétition, tu vas pas
faire. J'ai lu ça, qui t'avait énormément épaulé,
énormément,
mentoré.
C'était un père spirituel, vraiment. D'ailleurs, je suis encore en contact avec lui. Mais il a joué aussi un rôle d'éducateur aussi, quelque part. Et c'était vraiment... J'avais besoin un peu de ces repères qui me manquaient, de ces limites aussi. Parce que des fois, sur le ring, quand ça me plaisait pas, je jetais les gants par terre, je partais. Non, Maïva, c'est pas ça. Le respect de l'adversaire, c'est pas ça. Quand il y a quelqu'un en face de toi, tu le laisses pas, tu quittes pas comme ça le ring, ça se fait pas, quoi. Et j'ai appris le respect, je l'ai appris là, sur le ring.
Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on peut penser que la boxe, c'est un sport, tu vois, où tu tapes des gens, donc c'est uniquement de la violence, de l'agressivité. Mais en fait, ce qu'il y a d'hyper fort, je trouve, dans ce sport, pour pas connaître grand-chose, c'est que souvent, quand même, il y a aussi beaucoup de respect, des règles. Il y a quand même... c'est un peu des personnalités. Enfin, en tout cas, toi, la manière dont tu le décris pour toi, c'est que tu as un côté humble, respectueux, mais pour autant, tu es dans l'action, la violence. Et je trouve que c'est assez fort de se dire que tu peux être... respectueux, mais tout en donnant tout ce que tu as sur le ring, quoi.
Ah oui, bien sûr, complètement, c'est sûr. Et c'est vrai que cet aspect-là de respect, de loyauté, dépassement, de soi, toutes ces valeurs-là, je les prise avec le sport, en fait, finalement. Et la jeune femme que je suis aujourd'hui, je suis telle que je suis grâce à la boxe aussi. Ça a façonné ma personnalité, tout ce que je suis là. Au bout de 15 ans de boxe, ouais, ça m'a forcément...
Tu penses que tu ferais quoi si t'étais pas tombée dans la boxe? T'aurais fait du foot? T'aurais...
Non, parce que le foot, du coup, ça me plaisait plus. Le rugby, peut-être. Mais le rugby, voilà, n'était pas encore assez développé à ce moment-là pour les filles. Mais je pense que j'aurais fait du rugby, ouais. Parce que j'avais essayé le judo, tout ça, mais ça me plaisait pas. C'était pas aussi... Il n'y avait pas autant de contact que la boxe. La boxe, c'est vraiment, tu vois, tu prends des coups dans la figure, tu prends, on prenait des coups de pied, on se mettait des chassés, tout ça. En plus, je boxais qu'avec des hommes et je me suis toujours entraînée qu'avec des hommes. C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait que je m'entraîne qu'avec des hommes.
Et pourquoi tu as fait ce choix?
Parce qu'en fait, au début, je me suis rendu compte que oui, ça frappait fort. Ça, je rentrais chez moi, j'avais les jambes pleines de bleu. J'avais les jambes pleines de bleu. On dirait que je m'étais fait agresser dans le métro, quoi. Non, mais franchement, et en plus, je me préservais pas du tout. Ce que je ne ferais pas aujourd'hui, mais je me préservais pas du tout. Je prenais des coups que je devais pas forcément prendre. Je boxais avec des hommes, hein, des hommes qui avaient 34, 35, 40 ans.
Comme toi, t'avais 15, 16 ans.
Ouais, quand moi, j'avais 15, 16 ans, et je devais pas prendre ces coups-là. Moi, je pense que si j'avais une petite fille ou un petit garçon, je le préserverais plus que ça. Là, c'est vrai que moi, bon, voilà, après, ça a été un très bon entraîneur, il n'y a pas de souci. Mais je pense que... Il faut préserver aussi un côté au niveau santé. Et je pense que je ne me suis pas préservée comme j'aurais dû me préserver. Et bon, ça n'a pas eu de conséquences, tant mieux. Mais c'est vrai que l'état physique, des fois, dans lequel je me mettais, n'était pas forcément utile. Est-ce qu'après, je cherchais autre chose après avec tout ça ? Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans l'aspect psychologique et tout ça. Mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi de ce côté-là. Mais c'est vrai que donc, du coup, j'ai trouvé une famille aussi dans ce club-là, parce que tous les week-ends, ils me prenaient pour les déplacements, tout ça. Ils regardaient mes notes, mes bulletins scolaires. Donc à l'école, du coup, mon comportement s'améliorait aussi par la force des choses, parce que je donnais tout le soir. Donc le matin, j'avais plus rien.
Lessivée, quoi.
Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me lever, bouger une oreille. Je ne pouvais rien faire.
Tu n'avais plus envie de taper sur qui que ce soit, en tout cas.
Donc j'étais beaucoup moins turbulente, tout ça. Et mes résultats s'en sont ressentis et tout s'est bien passé grâce au sport. C'est pour ça que le sport en France, on le met un peu là sous tutelle de, par exemple, de l'éducation nationale et tout, c'est très bien, c'est sûr. En fait, des fois, on sous-estime un peu le sport et les bienfaits du sport, alors qu'on en a réellement besoin, surtout dans l'aspect éducation, tout ça. Je pense qu'il faut vraiment le garder. Malheureusement, je trouve qu'on le met un peu de côté.
Surtout pour certaines personnes qui, quand tu rentres pas dans le cadre scolaire de base, on va dire, qui est pas adapté en plus à 80% des gens, hein. Mais ça permet d'avoir une autre voie, tu vois, dans certains pays,
bien sûr,
beaucoup plus mis en avant qu'en France. En France, si tu deviens comme toi sportif de très haut niveau, mais c'est quand même pas possible pour tout le monde.
Bien sûr.
Il y a pas beaucoup d'options, quoi. Donc,
mais tu le vois à l'école, de toute façon, hein, quand t'es pas fort en EPS, tes parents ils disent bon, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est l'EPS, on s'en fout. Tu vois, alors que, ouais, pas forcément. Moi, je suis pas trop. Pas parce que j'ai réussi là-dedans, hein. C'est parce que moi, j'en ai eu les bienfaits directement.
Tu vois les bienfaits.
Ah ouais, c'est clair, directement. Et donc, c'est ça.
Bon, mais alors, tu fais tout ce travail dans la boxe. Et en parallèle de ça, donc, je ne sais pas justement si c'est aussi lié à ce mentor-là, mais tu finis par t'intéresser au milieu de la police, puisque aujourd'hui, donc, tu as cette double casquette dont je voulais parler, qui est que tu es championne du monde de boxe, mais tu es aussi policière.
C'est ça.
Ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en fait avoir cette carrière en parallèle ? Est-ce que tu t'es posé la question, parce que je pense qu'il y a plein de gens, alors qui sont pas du tout comme toi, champion du monde ou quoi que ce soit, mais qui se posent la question d'avoir deux carrières. Toi, c'est deux carrières très prenantes, les deux en plus. Donc on peut se dire, mais comment est-ce qu'elle fait déjà ? Et puis pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de faire les deux en même temps ? Donc ma question concrètement, c'est qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir t'intéresser au monde de la police et à vouloir poursuivre une carrière en tant que policière ? Et puis la deuxième question après, c'est concrètement comment t'as fait pour gérer les deux en parallèle, quoi.
Alors, j'ai toujours voulu rentrer dans la police. C'est-à-dire que dès petite, quand je voyais des voitures avec le bleu, tout ça, j'étais là, la police, je vais rentrer dans la police, tout ça. J'ai toujours voulu rentrer dans la police. Déjà, ma mère m'avait offert une voiture télécommandée de police, en fait. J'adorais. Personne ne comprenait, moi j'adorais.
Mais t'avais pas du tout de famille en plus dans la police,
non,
et tout.
Du
donc
tout,
c'est pas un
du
truc.
Du tout, c'est un truc. Je voulais rentrer dans la police. C'était, j'avais une admiration à la police, quoi. Ok. Les années passent, tout ça. Bon, il y a la boxe. Et après le bac, je vais un peu en fac, tout ça, en attendant mon entrée en école de police. Parce que là, je passe le concours. Dès que j'ai le bac, en fait, je passe le concours police. Parce que je me suis dit, pourquoi attendre, en sachant
oui,
que c'est
ce que
je veux,
quoi,
faire. Voilà. Bon, donc je rentre. Ok. Je passe mon concours. Et là, j'ai à mon entraîneur, de toute façon, si ça va pas, moi j'arrête la police parce que moi je veux boxer. Et au début, vraiment, la boxe, ça me prenait vraiment au trip. Hein. Et c'est là où lui, il a joué un rôle clé aussi, c'est qu'il m'a dit non, parce que la boxe, ça te fera pas manger. La police, c'est un métier. La boxe, c'est pas un métier. Donc au début, il m'a parlé comme ça.
En plus.
Voilà, en plus, c'était un pied-point. Et lui, il a vraiment pas parlé, voilà. Il m'a pas parlé pour la boxe, même si j'avais des grosses qualités à ce moment-là. Il m'a dit non, assure ton avenir déjà, et après tu verras. Donc, je suis allée à l'école de police. Je suis allée à l'école de police de Rouen-Oissel. Et pendant l'année d'école de police, je m'entraînais tous les jours. Et cette année-là, j'ai fait deux championnats de France en pied-point et en anglaise, parce que du coup, tous les week-ends, je prenais une chambre d'hôtel sur Paris pour venir m'entraîner sur Paris tous les week-ends. Tous les samedis soirs, je prenais une chambre d'hôtel. Pour rester samedi, dimanche sur Paris. Et je revenais à Rouen le dimanche après-midi. Et je faisais ça tous les week-ends pour pouvoir aller m'entraîner le week-end sur Paris. Donc, je prenais une chambre d'hôtel sur Paris pour m'entraîner. Voilà. Et la semaine, ce que je faisais, c'est que tous les mecs qui venaient, par exemple, en stage brigadier, officier de police judiciaire, tout ça, je venais avec mon sac sur le tatami. Je dis « Oui, est-ce que je peux boxer avec vous ?»« Oui, ben viens, viens, petite, viens, viens, viens. »
Oui.
Je l'ai cartonné et ils disaient « Ah, c'est elle, elle boxe trop bien, c'est elle !» Je leur ai fait la misère. Et c'est vrai que moi, ça me faisait sourire parce qu'en fait, oui, je suis quand même petit gabarit, tout ça. Et j'étais tellement passionnée de boxe que j'avais quand même à ce niveau-là. Déjà, j'avais déjà un très bon niveau à ce moment-là. Et lui, il ne s'attendait pas parce que je suis une petite crevette quand même. Et il disait « Ah ouais, elle boxe trop bien. » Et donc, en fait, toutes les semaines, Je m'entraînais. Et en dehors des heures de cours, donc ça. Et puis après, j'ai eu mon affectation à Asnières. Et ça a suivi son cours. Mais par exemple, quand j'étais en police secours, quand on commence à 6h30, je m'entraînais à 4h. Je m'entraînais à 4h du matin. Je prenais mon vélo, j'allais au commissariat parce qu'il y avait une salle de muscu au commissariat. Et ceux qui étaient à la brigade de nuit, ils me voyaient arriver à 5h du matin. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Ouais. Pourquoi tu te lèves, va dormir. Attends, si tu prends à 6h30, à 5h, t'as la salle de sport, mais il y a un souci, quoi. Et on se moquait de moi, sauf qu'au fur et à mesure des mois, des années qui passaient, plus personne ne se moque de moi maintenant, quoi.
Ouais.
Parce qu'en fait, je pense que dans tous les domaines, je pense qu'arrivé à un moment donné, quand on se donne les moyens de réussir, oui, on peut travailler à minuit, 2h du matin. Ouais, moi, ça ne me choque pas. À partir du moment où on a des objectifs bien établi, bien clair. Ceux qui sont pas dedans, ils peuvent rigoler, mais tu sais, je pense qu'ils rigolent pas longtemps quand ils voient les résultats que ça donne. Ils disent ouais, finalement, elle lâche pas le morceau et puis ça paye, quoi. Ça paye parce que les collègues qui se moquaient de moi hier, quand ils me voient aujourd'hui, ils font championne, viens, on fait une photo, tout ça. Oui, mais moi je m'en souviens. Après.
Mais tu prends plutôt du plaisir à les avoir, tu vois, c'est-à-dire à ce qu'ils soient trompés. Parce que tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand il y avait les mecs qui te disaient allez, on fait de la boxe et qui pensaient qu'ils allaient te matraquer. Et puis finalement, c'est toi en deux secondes qui leur met des pains alors que t'es, comme tu dis, crevette. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas. J'imagine qu'il y a un certain plaisir quand même à montrer que c'est toi qui as raison et c'est eux qui ont tort. Ou en fait, finalement, parce que je trouve que souvent, l'image que les gens ont de nous peut être assez décorrélé de qui on est vraiment, et donc montrer finalement à la personne que bah non, en fait, c'est pas parce que t'as cette apparence que c'est qui tu es. Je trouve ça assez fort, tu vois, comme message.
Ben, les gens te mettent facilement dans des cases.
C'est ça.
Ils te mettent dans des cases tout de suite sans comprendre le pourquoi, le comment. Ils font des raccourcis, encore plus maintenant qu'avant. Ils font des raccourcis tout de suite, et alors que non, quand on est passionné par quelque chose et tout, on se donne à fond. Et je leur ai montré qu'ils avaient tort, et plusieurs fois, ben, même en école de police. Quand ils ont su que je boxais très bien, ils disaient oui, mais si elle boxe très bien, donc elle aura de mauvais résultats scolaires. Parce qu'en fait, on peut pas être bon en boxe et intelligent. Enfin, et être intelligent et sortir de bonnes notes. Je veux dire, à un moment donné, non. Je veux dire, on peut réfléchir devant un cahier et savoir boxer. On a toujours l'idée du boxeur un peu bête, un peu. Alors que non, pas forcément. Ça aussi, je me suis battue contre cette image-là, de boxeur. Un peu léger, à côté, quoi. De ses pompes, quoi, ouais. Voilà. Donc ça, et puis la femme dans la boxe aussi, la femme dans la police. Non, je me bats aussi contre plein d'idées reçues, tout ça, et c'est important de se battre contre ça. Donc oui, donc il y a eu cette double carrière boxe-police. Donc je me levais à 4h du matin, il y a eu des moments très difficiles pour que je puisse faire les deux en parallèle. Il y a plein de personnes qui arrêtent le sport parce qu'ils doivent choisir entre...
Ouais.
le métier et le sport, c'est entre clair. Leur métier qui les fait manger tous les jours, quoi, et le sport. Et moi, j'ai pas lâché à ce moment-là parce que je voulais faire les deux. Donc le soir, je me couchais à 19h pour me lever à 4h pour aller faire ma séance. Et après, j'allais l'après-midi aussi faire ma séance. Et ma vie, c'était boxe, police. Et c'était que ça, quoi.
Et quand on y réfléchit, Maëva, tu dirais que ça t'a mis combien de temps? Parce que je trouve que c'est intéressant justement que les gens visualisent les années avant que tu commences à pouvoir vivre de la boxe. Je ne sais pas si tu peux vivre de la boxe, mais aujourd'hui, quand même, 7 fois championne du monde, je peux imaginer quand même que ça te permet de gagner un peu d'argent. Mais combien d'années d'abnégation, de lever à 4h du mat pour aller t'entraîner avant que ça commence à te rapporter le moindre euro, quoi?
Est-ce que tu comptes le début de quand j'ai commencé à 14 ans?
Ouais, complètement.
Ok, donc 14 ans jusqu'à à peu près 23 ans. J'ai mon premier titre de championne d'Europe à 24 ans.
Donc 10 ans, quoi.
Là, ça, ouais, 10 ans.
10 ans à t'entraîner quasiment tous les jours.
Ouais, 10 ans. 10 ans parce que quand j'avais 14 ans, que je m'entraînais déjà sérieusement, le week-end, je courais. Et tu sais, j'ai grandi dans un milieu très modeste, quartier populaire, tout ça. Et moi, je me rappelle que les jeunes garçons au pied des immeubles, quand ils me voyaient courir le week-end, ils disaient « Non, mais de toute façon, elle va vite s'arrêter de courir. » Dans 2-3 semaines, elle va s'arrêter, quoi. Et sauf que je me suis jamais arrêtée et jusqu'aujourd'hui, je cours encore, quoi. Et ces mêmes mecs-là qui tenaient les murs, aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent, waouh, Maëva, t'es une vraie championne de boxe, viens, on fait une photo ensemble. Et j'en reviens toujours à ça. C'est que depuis petite, je me suis battue sur toutes ces idées-là qu'on a. Mais la persévérance, ça paie toujours, quoi. On a toujours ce retour et je crois dur qu'on fait au travail dans tous les domaines, tout ça. Et oui, et je pense qu'il faut à peu près 10 ans de travail acharné où on est tout seul, hein. Finalement, on est tout seul parce qu'on peut nous encourager comme ça un peu vite fait, mais on est tout seul, on est quand même tout seul. Et donc, ouais, 10 ans où on a du soutien et il faut se souvenir aussi des personnes qui nous soutiennent depuis le départ. Et ouais, continue, tout ça, c'est bien ce que tu fais. Et à côté de ça, bien sûr, on est obligé de garder son métier qui nous fait manger, tout ça. Et donc voilà, au premier titre de champion d'Europe, 23 ans. Là, j'ai eu des détachements ponctuels aussi en équipe de France olympique. Champion d'Europe, et là, bon. Après, ça a commencé à prendre de l'ampleur parce qu'on ne prenait pas trop au sérieux. Et quand j'étais championne d'Europe, deux fois championne d'Europe, là, on a quand commencé même, à dire, oui, bon, là, quand même, là, quand même, bon, on va commencer à la regarder, la petite, à voir ce qu'elle fait. Et premier championnat du monde que j'ai fait en Belgique, c'était en 2015, juste avant les attentats du Bataclan, parce que je me souviens, parce qu'on était aussi sur les attentats du Bataclan juste derrière. Donc, je m'en souviens. Et là, ouais, premier titre de championnat, premier championnat du monde que je perds au point en Belgique. Gros combat, tout ça. Et là, j'avais déjà passé un gros palier. Et première défaite, mais une défaite finalement qui était assez enrichissante pour moi. Donc, je passe le cap de la défaite. Et là, j'enchaîne les titres que j'ai fait ici, donc sur Paris. Sur Paris, premier titre que je fais sur Paris, à Le Carpentier. Et après, j'ai enchaîné les défenses. Et jusqu'au moment là où je suis cette fois championne du monde. Et j'attendais d'aller en Corée du Sud, de la remettre mon titre en jeu en février. Bon, par la force des choses, ça ne peut pas se faire pour l'instant. Même les États-Unis, c'est des gros combats qui vont arriver là, qui vont se faire. On attend juste que les frontières rouvrent et tout ça. Mais il y a eu un gros chemin parcouru. Et c'est pour ça qu'il faut rester humble et tout ça sur ce qu'on fait. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà, faut croire en soi avant tout, et c'est le plus important.
Si on revient, Maëva, elle a double casquette police box. Si je me trompe pas, aujourd'hui, alors j'ai lu, je crois que tu es dans une brigade, donc qui s'appelle la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est quand même assez musclé, si je me trompe pas. et en fait, je trouvais ça hyper intéressant. Alors après, je te mets à l'aise si tu veux pas en parler, mais ce côté femme. Quand même, moi, je suis à fond pour que les femmes aient de l'ambition, s'assument. Et en fait, le côté quand même femme dans la police, je crois qu'en plus, c'est une brigade où il n'y a quand même pas énormément de filles.
Oui, il n'y a pas énormément de filles.
C'est un choix qui est assez fort. Est-ce que c'était important pour toi, au-delà du métier peut-être que tu aimes, mais tu vois, d'être presque un peu un symbole aussi, au-delà de la boxe, de se dire, bah, en fait, il y a des métiers que les femmes peuvent faire, que ce soit dans la boxe ou dans la police, et finalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes qui le fassent. Alors certes, tout le monde ne peut pas le faire, parce que j'imagine que comme c'est sportif, n'importe qui, enfin moi par exemple, c'est peut-être pas la bonne chose, mais il n'y a pas de raison en fait qu'on puisse pas le faire.
En fait, je pense que être femme dans la police, c'est dur déjà dans ce corps de métier, mais c'est aussi dur aussi face à la population. C'est-à-dire que quand tu te fais contrôler...
Chez les héros civils qui sont dehors.
Oui, voilà. Mmh. C'est-à-dire, non, pas par la population qu'on côtoie tous les jours en tant que policier. C'est-à-dire que quand tu te fais contrôler par trois femmes policières, c'est pas pareil que quand tu... C'est pas pareil, ça donne pas le même effet que trois hommes policiers. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est que sur le métier de femme policière sera toujours plus dur que pour un policier, en fait. Parce que c'est-à-dire qu'il y a tout le temps ce rapport de force quotidien, régulier, que tu as sur le terrain et qui est là, qui est omniprésent. Et c'est une lutte de tous les jours. C'est, ouais. C'est hallucinant. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu vas contrôler, si t'es une femme, en fait, ils vont te répondre différemment. Ils vont pas te prendre au sérieux.
Donc concrètement, ils sont plus agressifs.
Oui, voilà. Ils sont plus agressifs, plus irrespectueux. Tu leur demandes de se mettre face au mur. Eh bien, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils vont tout le temps chercher... tout le temps sur la défensive, tout le temps chercher le conflit, le rapport de force avec la femme, parce qu'ils ont du mal à recevoir une directive, en fait, qui est fondée. Mais si c'est une femme, en fait, qui leur donne, ils vont mal le percevoir. Et ça, c'est un fait, c'est réel. Et c'est un gros souci qui y a aussi. C'est parce que, en fait, des fois, on est obligé d'en venir aux mains et de monter le ton pour être entendu et écouté, quoi.
Et, on peut pas lâcher. S'ils avaient en face d'eux, je pense qu'ils feraient moins les malins.
Mais... Exactement. Et c'est arrivé plusieurs fois. À un moment donné, on est la police, on peut pas lâcher. Ouais. Si nous, on lâche, on fait quoi? On peut pas lâcher. Donc non, moi je suis dans la police et j'ai mon mot à dire, et ce que je dis, il va le faire, parce que je suis en droit de lui donner ces directives là. Oui, donc je suis dans mon bon droit, quoi. Et donc du coup ça fait des situations au quotidien qui sont compliquées. Donc le métier de femme dans la police, il est dur aussi vis-à-vis de la population, surtout, je trouve, déjà par rapport aux collègues, parce que hein, une femme, ouais, il y a toujours un peu ce côté, c'est une femme, est-ce que... Il va falloir qu'elle montre physiquement qu'elle est prête, qu'elle en veut et qu'elle est là, qu'on peut compter sur elle. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est établi, c'est sûr. Et à côté de ça, vis-à-vis de la population, il y aura toujours constamment, quotidiennement, régulièrement, ce rapport de force que tu auras avec des gens dehors, sur le terrain. Et ça, c'est pas qu'une fois, c'est toute la journée. Toute la journée, il faut monter le ton, il faut hausser le ton, il faut être strict dès le départ. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'il y a pour les femmes dans la police. Alors là, j'aimerais bien peut-être essayer d'aller au raid un peu plus tard.
Cool, tu sais que j'ai déjà eu sur le podcast quelqu'un du raid.
Ah ouais, c'est génial.
Ouais, c'est génial. C'était passionnant comme interview aussi. C'est mais je crois pas qu'il y ait de femmes, si.
Alors,
pas beaucoup.
Ils vont ouvrir. Ouais. Je pense le groupe d'intervention aux femmes, parce qu'il n'y a pas de femmes au groupe d'intervention du RAID. Alors pourquoi pas essayer, pourquoi pas passer les tests après la boxe. Je pense avoir le bon profil, et vu que je suis passionnée par ce métier-là, je pense que ça me correspondrait. Après, il faudra voir après la carrière, qu'est-ce que je ferai, je ne peux pas savoir, parce que là, je vise les prochains JO, ceux de 2024. Donc on va voir. D'ici là, on n'y est pas, quoi. Mais il y a de beaux jours pour les femmes dans la police, surtout dans les services spécialisés comme le RAID, la BRI, tout ça. Les femmes ont leur place. Donc maintenant, c'est à elles de prendre les choses en main et de faire les choses. Mais vraiment, non, il y a vraiment beaucoup de femmes dans la police, et ça tend vraiment à se...
D'accord, à se s'harmoniser, quoi.
À s'harmoniser, quoi, vraiment. Après, ça reste quand même difficile, et moi, je le dis, même moi, je le dis. Par exemple, sur une patrouille de trois fonctionnaires de police, quand t'as deux femmes ou trois femmes dans la voiture, c'est compliqué de faire son travail.
Oui.
C'est comme je disais tout à l'heure, la relation que tu as avec la population, avec le public dehors, va pas être le même quand t'es trois hommes ou trois femmes, en fait. Quand il y a trois hommes ou trois femmes. Et ça, c'est un fait réel. Et je trouve que c'est dur. C'est compliqué de travailler quand il y a trop de femmes aussi. C'est compliqué de pouvoir travailler dans des bonnes conditions dehors. Parce qu'ils en profitent un peu plus, en fait, dehors. Ils font des choses envers les femmes qu'ils ne feraient pas envers des hommes.
Ouais, d'accord.
Ça, c'est clair. Et il y a l'aspect sécurité tout de suite qui rentre en jeu. Et c'est compliqué parce qu'il va falloir tout de suite que tu, comme tu disais tout à l'heure, que tu sois strict, que tu poses les bases directes, parce qu'en fait, il ne faut rien laisser passer. Parce que sur une femme, ils vont s'autoriser beaucoup plus de choses.
Juste pour qu'on comprenne, ensuite on terminera par revenir sur le monde de la boxe, mais donc cette fameuse compagnie de sécurisation et d'intervention, en gros, concrètement, c'est quoi son rôle? Et toi, par exemple, à quoi ça ressemble, du coup, ta journée actuellement entre les entraînements à la boxe et puis le fait que tu es aussi à la police?
Alors, mes journées... Alors, il y a deux questions.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est la CSI? Compagnie de sécurisation et d'intervention. Nous, on dépend de la préfecture de police de Paris. Donc, en fait, on y... On a plusieurs services au sein de la CSI. On a les motards qui font de l'anticrime, anticriminalité, okay, qui sont très performants dans leur domaine, qui s'occupent aussi beaucoup de routiers, mais qui font beaucoup de contrôles. Ils sont très réactifs parce qu'ils vont très vite en moto, tout ça, et puis ils maîtrisent vraiment leur domaine. Il y a les bacs en civil aussi. Et en fait, on fait beaucoup d'anticriminalité. Donc, anticriminalité, c'est des contrôles de police, contrôle d'identité. On cherche du stup ou différentes infractions liées aux stupéfiants, aux codes de la route, tout ça. On lutte contre la criminalité tous les jours. Après, on a un service qui s'appelle le groupe de soutien opérationnel, qui est donc le GSO, qui est spécialisé dans les ouvertures de portes le matin. Ouverture de portes, forcenés, retranchés. Ils font aussi des opérations stup, tout ça également. Donc, des grosses opérations, tout ça. Donc, on a ce groupe-là. Et on a les compagnies tenues, donc, comme moi, c'est le corps de la CSI. Et nous, en fait, on est dispatchés dans tous les arrondissements de Paris et on fait de l'anticriminalité. Anticriminalité, contrôle d'identité, recherche d'infractions. On intervient aussi sur les violences. On assiste aussi la police secours qui sont sur des missions police secours. On fait plein de choses. Après, on peut aussi être sur... les mouvements gilets jaunes, on a été aussi réquisitionné on était sollicité sur ces périodes-là où il fallait beaucoup de fonctionnaires de police. Donc on a été aussi, on est aussi spécialisé dans le maintien de l'ordre.
Donc assez tout terrain, quoi.
Ouais, assez tout terrain, parce qu'en fait on dépend beaucoup de l'actualité. En fait, tout dépend de l'actualité. Si demain tu as des attentats, on va être beaucoup sur les attentats. On est équipé en lourd. Il faut savoir que dans la voiture on a le matos lourd, gilet lourd, casque lourd, bouclier lourd. On a aussi le matos pour le maintien de l'ordre. Donc, en fait, il faut être prêt à agir sur... Voilà,
hyper
à
toute éventualité. En plus,
voilà, hyper. Nous, on dépend de la préfecture de police. Donc, en fait, on est collé à l'actualité. Tout ce qui se passe dans l'actualité, nos missions vont dépendre de l'actualité. Tu peux faire ça, le lendemain, tu vas faire carrément autre chose, en fait. Ça, c'est la CSI. C'est le point fort de la CSI, c'est la mobilité et l'adaptabilité, entre guillemets, à la situation.
Et du coup, concrètement, tes journées, ça ressemble à quoi?
Voilà, ça, c'est la deuxième question. Alors, les journées, ce matin, par exemple, demain matin, je prends à 7h. Je prends à 7h parce qu'on doit amener des collègues au stand de tir pour faire des habilitations, armes G36, voilà, tout ça, armes d'épaule, tout ce qui est fusil d'assaut, tout ça. Toutes les habilitations se font avec des moniteurs. Voilà, un stand de tir... on leur montre toutes les règles de sécurité pour avoir ces armes-là, pour être habilité. On les fait tirer, tout ça, donc ça prend un peu de temps. Donc ça c'est pour demain, 7h. Alors, ce que je fais, c'est après le boulot, je vais au sport, forcément.
Mais donc, en fait, le boulot, c'est de 7h à quelle heure, par exemple, demain?
Là, et les horaires changent en fonction de la mission. Ouais, c'est de 7h jusqu'à 14h. 14h, je vais partir, voilà. Faire mon sport, tout ça.
Donc, quand tu dis mon sport, tout ça, ça veut dire que de 14h à quelle heure tu fais un entraînement, par exemple ?
En fait, je rentre chez moi, je me pose un peu, je fais de 16 à 18, parce qu'il faut savoir qu'on rentre de stage. En fait, moi, des fois, je pars 11 jours en stage, je reviens, j'ai une semaine, après, je repars à l'INSEP, une semaine à fond. Et en fait, voilà. En fait, là, j'ai un temps aménagé, ce qu'on appelle le tiers-temps, qui est mis en place par la police nationale en collaboration avec le ministère des Sports. Ministère de l'Intérieur, ministère des Sports. En fait, comme je suis sur les qualifs des Jeux Olympiques, j'ai un détachement adapté justement pour que je puisse me préparer. Parce qu'en fait, toutes les compétitions qu'on a à l'étranger, je ne peux pas être au travail, à l'étranger, faire tout en même temps. Surtout là, avec toutes ces facettes que j'ai, quoi. Boxe olympique, boxe pro, travail, je ne peux pas être partout. Donc en fait, c'est un système qui est mis en place par les ministères pour nous permettre de faire nos performances et de faire notre carrière sportive. En fait, c'est un peu les contrats images de la police nationale qui sont maintenant, en fait. Voilà. Ils ont ça aussi dans l'armée, mais hein, c'est la police.
Au-delà de l'entraînement, un aspect tu as évoqué brièvement, et puis on en parlait un petit peu juste avant de commencer l'interview, qui paraît hyper important dans les métiers de combat. Enfin, j'avais déjà parlé à d'autres personnes qui font de la boxe, c'est toute la gestion du poids et de l'entraînement, quoi, globalement physique, enfin, le fait d'être en bonne forme physique. Ça, en fait, si du coup, ça me permet de faire un peu une transition justement à nouveau sur la boxe, je voulais savoir en fait si... Parce qu'on a un peu cette sensation que le boxeur, il passe sa vie, en fait, à penser à son poids pour pouvoir être sûr de pouvoir rentrer dans le cadre, enfin, dans sa bonne catégorie. Et toi, en plus, comme tu es dans une catégorie super plume, ben, en fait, tu es obligé d'être hyper fit en permanence. Donc, je voulais savoir, en fait, si cette hygiène de vie, au-delà de la partie sportive, elle était, ben, en fait, permanente pour toi. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que tu es obligé de te réfréner parce qu'en fait, ça te saoule, t'aimerais bien te faire une glace de temps en temps et un morceau de gâteau et qu'en fait, non, tu peux pas. Enfin, globalement, pour qu'on comprenne, tu vois, quand on est nous, pas des athlètes, ça veut dire quoi mentalement en fait? C'est quoi les sacrifices ou pas? Mais je veux dire, l'hygiène de vie que tu dois avoir, est-ce qu'elle est aussi importante que ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est un peu la vie de moine, tu vois, telle qu'on peut l'imaginer, quoi?
Alors, moi je suis un cas particulier. Alors, t'es bien tombée. C'est-à-dire, parce qu'en fait, avant un boxe olympique, j'étais à moins de 57 kilos. Donc là, j'étais vraiment sur la phase régime strict. C'est-à-dire, tu as faim toute la journée, tu as soif toute la journée. C'est-à-dire, tu tires sur l'eau, tu tires sur la nourriture et tu tires sur l'eau. Tu as soif, tu as faim, donc ton comportement tous les jours est influencé par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es irritable tout au long de la journée. T'es irritable, t'es pas bien dans tes baskets, t'es pas bien dans ta peau,
t'as 57, je suis désolée, c'est moins de ton poids normal en fait. Ça
oui, voilà, après ça dépend de chacun, mais pour nous, avec la capacité musculaire que l'on a, la masse musculaire que l'on a, oui, c'est compliqué. Forcément, pour une femme de 1m62, c'est pas forcément dur de faire 57 kilos, mais ça dépend de chacun, de la masse grasse de chacun et tout ça. Ok, donc c'est un poids que j'avais beaucoup de mal à faire. Et sauf que bah, le soir, tu manges pas, tu sautes des repas. Le problème, c'est qu'après, en dehors des combats, en dehors des compétitions, bah, tu fais un peu comme des crises de boulimie, tout ça. Tu manges, tu as des comportements vraiment... voilà, c'est...
Mais qui est un vrai sujet, je crois, pour les sportifs, hein, quand même, l'alimentation, ouais, c'est terrible, c'est parce que sujet. Tu te réfrènes tellement que c'est terrible.
C'est un vrai
quoi.
Sujet. Et donc, du coup, j'ai décidé, moi, de pas jouer ce jeu-là. Je me suis dit, tiens, je me mets dans des catégories de poids où je suis à l'aise, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance pour être dans ces catégories de poids-là. Donc, à un moment donné, on ne va pas me faire descendre. Si moi, je fais ma place dans cette catégorie-là, je ne vais pas descendre. Donc, après, il faut faire sa place, quoi. Donc, en boxe pro, je me suis mis en super plume, donc moins de 58 kg 900. C'est précis, 927. C'est assez précis. Et donc, les pesées, c'est le soir. Donc, on fait attention, tout ça. Voilà. Et je suis en poids léger, donc moins de 60 kilos pour la boxe olympique.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est deux catés bon, qui se chevauchent un peu. Voilà. Mais pour moi, tout se passe bien parce que c'est un poids que j'ai au quotidien. Donc, en fait, j'ai une alimentation assez stricte au quotidien. Mais pas si strict que ça. C'est-à-dire que si je veux me faire un bout de gâteau, je me fais un bout de gâteau, quoi. Je mange le bout de gâteau. Parce que si tu ne manges pas ce bout de gâteau-là, ok, ben après, tu vas vouloir en manger 10. Parce que c'est une frustration qu'on se crée. Et ça, il faut faire très attention à ça pour l'avoir vécu. Et c'est pour ça que beaucoup de boxeurs, après, font le yo-yo et reprennent du poids derrière, tout ça. Énormément de poids, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le corps après se met en sécurité, fait des réserves, et le mental aussi, on fait des réserves.
Vous brûlez tellement en plus pendant les entraînements, j'imagine.
C'est très dur. Par exemple, moi, par exemple, par faim, des fois, je dormais très mal la nuit. Oui. La faim te réveille. À 4h du matin, tu te réveilles parce que t'as faim. Et comment tu fais? T'as faim, il est 4h du matin, t'es dans ton lit, t'as faim et t'arrives pas à t'endormir parce que t'as faim et tu peux pas manger. Et c'est terrible. Hein. Moi, ça aurait pu me faire arrêter la boxe. Le poids aurait pu me faire arrêter. Pourtant, j'aime la boxe, hein, je suis passionnée, voilà. Mais le poids aurait pu me faire arrêter la boxe. Parce qu'en fait, j'étais malheureuse avec cet aspect poids. J'étais triste. Je pensais qu'au poids, quotidiennement, je pensais qu'à manger. Au quotidien, je pensais qu'à la nourriture, qu'à boire, en fait. Et qu'à boire et à manger, en fait.
Parce
et...
que là, concrètement, je sais pas si... Enfin, je pense que tu dois savoir, mais pour arriver à ton poids juste au niveau de la boxe, ça veut dire que tu as combien de pourcents de masse grasse à peu près? C'est rien.
Là, je dois être à 20%.
Ouais, mais ce qui pour une
c'est
femme.
Pas... Oui, pour une femme, un homme bien affûté, c'est on va dire c'est 10, une femme c'est 20. Voilà. Et là, c'est on va dire, c'est l'aspect athlétique, ok. Après, il y en a qui vont plus bas. Autant dans les hommes qu'ils peuvent aller en dessous de 10%, et les femmes peuvent aller en dessous de 20%. Ok. Mais après, on peut le faire, bien sûr, on peut le faire. Mais après, justement, faire attention à cet aspect yo-yo, tout ça, les périodes de sèche. Il y a beaucoup de boxeurs qui jouent sur l'eau au dernier moment. Les derniers jours, ils jouent vraiment sur l'eau. Pour descendre, ils mettent le KO, ils jouent sur l'eau, tout ça.
Oui, transpire pas... et tout.
Oui, voilà. Après, on perd de la flotte, on perd des sels minéraux, on perd plein de choses. Donc, c'est pas une vraie solution en soi. Moi, une fois, il y a un journaliste de l'équipe qui m'a dit, mais Maïva, c'est pas vrai, c'est pas ta catégorie. Parce que t'es la seule boxeuse que je connais qui est au poids tout au long de l'année. Ouais, mais à la fois, si ma puissance de frappe est suffisante pour être dans cette catégorie de poids-là, pourquoi je vais souffrir à descendre, et tous les boxeurs le font, pourquoi je vais souffrir à descendre encore en dessous alors que je suis bien et que je me retrouve encore plus forte dans ce moment-là? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect blessure. Je me suis beaucoup blessée. En moins 57 kilos, il y a des fractures de fatigue au calcanéum, voilà. Talons, tout ça, poignets, des tendinites, tu te coinces au dos parce que tu bois pas assez, tu te coinces et tout. Et franchement, c'est sans parler surtout de l'aspect psychologique qui font que oui, en tant que femme, t'es plus indisposée parce que tu manges pas assez, ton corps il se met en sécurité totalement. Et non, c'est moi je trouve que c'est non. Après, les entraîneurs nationaux, tout ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ça aussi, c'est que chacun, dans ces moments-là, le sport, ça reste un business, entre guillemets, chacun voit son intérêt, comme dans tous les domaines. Il faut faire très attention à être bien entouré. Dans le sport, il faut être très bien entouré parce que les entraîneurs ne sont pas toujours là pour notre bien.
Bah, pas pour ton bien-être long terme, en tout cas, quoi.
Voilà, ils sont là pour les résultats. Ils sont pas là parce qu'ils nous apprécient forcément ou pour notre bien. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, il faut savoir se protéger, prendre soin de soi, tout ça, et pas forcément écouter les on-dit ou suivre le mouvement. Parce que finalement, quand t'es plus performant, ces personnes-là ne te regarderont pas.
Et donc, ça, Maëva, comment t'as fait, enfin, tu vois, en tant que, entre guillemets, jeune fille, en plus, quand t'as commencé la boxe, t'avais 14 ans, comment tu as fait à un moment donné pour te dire, non, en fait, là, faut pas que j'écoute cette personne, je vais prendre ma décision, et ma décision, c'est que mon poids, c'est ça. Est-ce que t'as eu des personnes qui t'ont guidé, des mentors, tu vois, ton entourage peut-être, ta famille, enfin, ou c'est juste un truc personnel, des livres, je sais pas. Mais c'est assez dur quand même, je trouve, quand on est un peu seul comme ça, de dire non.
C'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, ils te tiennent aussi par le fait de... Tu es en équipe de France. Tu es en équipe de France, ok. Si tu veux rester en équipe de France, tu vas le faire. Sinon, t'es plus en équipe de France. Et cette place-là, tu la veux parce qu'elle est chère, parce que tu l'as voulu, parce que c'est ton rêve d'être en équipe de France.
Ça fait 10 ans que tu bosses.
Voilà, ça fait 10 ans que tu bosses. On te dit, tu fais ce championnat du monde, mais tu le fais à moins de 57 kilos. Si t'es pas à 57 kilos, tu fais pas le championnat du monde. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 57 kilos. Et ça, je comprends les gens qui le font. Et donc, moi, en boxe anglaise, donc en arrivant sur Paris, j'ai eu mon entraîneur Saute Mésache qui m'a entraîné pendant 8 ans. Lui aussi, il a beaucoup compté dans ma vie. Hein. Les deux entraîneurs qui ont compté dans ma vie, c'est l'entraîneur de pied-point. Dans le sud, et cet entraîneur-là qui m'entraînait pendant 8 ans. Comme je suis assez loyale, je reste beaucoup avec les entraîneurs. Je change pas beaucoup. Les entraîneurs comme ça, je change pas. Et donc, lui, il me disait, ne fais pas ce championnat du monde à 57 kilos, ne le fais pas. Mais si tu le fais, tu débrouilles, tu viens pas m'en parler après de ton poids. Et j'ai dit, bon, je le fais, j'avais 20 ans. Ouais, je le fais parce que c'est un championnat du monde, j'ai envie d'y aller. Ben, il va, c'est pas ton poids. Et bingo, j'y suis allée. Bon, j'y suis allée, j'ai perdu un quart de finale, je me suis coincée au dos, tout ça. Franchement, j'étais pas dans des super bonnes conditions. Et oui, le soir, dormir un kawé, tu manges pas, c'était un calvaire. Quoi. C'était,
un cauchemar,
c'était très dur. Ouais, c'était un cauchemar. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, et cet entraîneur-là m'a dit, Maïva, si t'as la puissance de frappe pour être dans cette catégorie-là, pourquoi tu descends? Viens, on passe pro, tu fais ça et puis après on verra. Et maintenant que j'ai ces capacités là, on me prend en boxe olympique à moins de 60 kilos et je suis très bien. Pas de régime, ça veut pas dire manger tout et n'importe quoi. Les gens ils s'imaginent que faire un régime c'est se restreindre de tout ce qui est bon, on se restreint. Non, c'est pas ça un régime. Un régime c'est en quantité. On fait attention à ce qu'on mange en quantité, mais rien n'est interdit. On peut manger du Nutella, mais on mange petit, le matin au petit déjeuner. On mange pas le soir avant d'aller au lit, par exemple. Et voilà, il y a des choses à savoir. Mais il ne faut pas se restreindre, dire oui, je vais moins manger en quantité. De toute façon, si tu manges moins en quantité là, dans 3 heures, tu auras faim et tu vas manger quelque chose.
Donc, ouais, et puis toi, avec ce que tu brûles comme calories,
oui,
en
voilà.
plus.
Donc voilà. Non, moi, je mange. Moi, j'ai faim, je mange et je m'en porte très bien. Et du coup, mon poids ne bouge pas. Donc, c'est la solution. Moi, la solution, je l'ai trouvée. Hein. Faut pas non plus rajouter des souffrances à la boxe qu'un sport déjà très dur.
Ouais.
Et on se le rajoute alors qu'on n'a pas forcément besoin de ça. C'est mon avis.
Écoute, j'espère que des boxeurs vont t'entendre justement et en tirer un petit peu de la graine. Si ça te va, Maëva, pour finir, j'ai toujours quelques questions que j'aime bien poser, qui sont des questions assez perso. Ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti. La première, c'est est-ce qu'il y a un échec ou une erreur ou tu vois, un moment de doute que tu aurais vécu dans ta carrière ? D'ailleurs, ça peut être dans ta carrière à titre perso, ça peut être tout autant la police que la boxe. Mais voilà, un moment de doute, un moment d'échec et puis l'enseignement que tu en as tiré aussi.
Ma première défaite au championnat du monde, que j'ai eue en 2015. Première grosse défaite sur un gros titre mondial. L'enseignement que j'en ai... C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais le niveau mondial, en fait. Je ne savais pas si je l'avais, parce que j'avais fait que des championnats d'Europe et tout ça. Et effectivement, il y avait un boulevard entre le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et là, j'ai vu à ce moment-là que je pouvais devenir une grande championne. Et cette défaite-là m'a beaucoup apporté. Parce que depuis ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si le mental lâche pas, si je reste comme je suis, si je continue à être performante, je peux toutes les gagner.
Il n'y a pas de raison, quoi.
Je peux toutes les avoir, toutes. Parce qu'avec 8 combats pro, j'ai failli battre une fille qui avait 40 combats pro, quoi.
Donc en fait, paradoxalement, tu as échoué, mais c'est à ce moment-là que tu t'es dit, c'est bon, je vais y arriver, quoi.
Ah ouais, je me suis dit, c'est bon. En fait, si elle, je suis arrivée à faire ça avec 8 combats pro, c'est-à-dire que dans quelques temps, si je continue à être bien, je vais être imbattable.
Et là, aujourd'hui, quand de temps en temps, je ne sais pas si ça t'arrive, hein, de vivre des échecs, tu réussis pas un match, quoi. Si ça t'arrive alors que tu es au sommet quand même de ta gloire, enfin, j'espère qu'elle va durer encore très longtemps et qu'il y en aura plus, mais tu es quand même pas mal.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu ressens ? Ça reste terriblement dur ou tu arrives à passer à autre chose ? Enfin, tu vois, je me dis toujours, les sportifs, il y a quand même quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, gens normaux, qui est que ben, même si tu es au top, tu peux tout à fait te prendre un mur, quoi.
Bien sûr, tu peux te prendre un mur en permanence.
Et ça apprend l'humilité, justement, de se dire, ben, en fait, à chaque fois, tu remets en cause le titre, quoi, d'une certaine manière.
Je pense que les défaites, on se souvient des défaites, on ne se souvient pas des victoires. Et on se souvient des défaites, c'est clair. Hein. Et les défaites, ça, à ce niveau-là, c'est très dur. Hein. C'est très dur, on peut mettre des mois à s'en remettre hein, d'une défaite. Hein. C'est vrai, hein, parce que ça a un réel impact sur notre vie personnelle, une défaite. Ça, parce que en fait, on s'est tellement donné là-dedans. Puis au niveau, en fait, avec le niveau que j'ai, les gens se disent, mais Maëva, elle va aller au jeu. Maëva, elle va être championne olympique.
Oui, ils se posent même pas la question. Ouais.
Les gens autour de moi, quand je suis interviewée ou même les amis ou autres, ils me disent, bon, alors... Bon alors les jeux, elle était prochain. Hein. Bon, on va être
facile.
Devant notre télé, tout ça. Oui, voilà. En fait, les gens n'envisagent pas de te voir perdre. Et c'est dur quand même. C'est dur parce que moi déjà j'ai toujours eu du mal à me valoriser moi personnellement. Et donc le problème c'est que les gens ils sont, c'est pas qu'ils vendent la peau douce avant de l'avoir tué, mais ça fait un peu flipper parce que pour eux non mais attends. Bien sûr que tu veux être championne. Ouais. Attends, Maïva, mais attends, mais qui peut te battre ? Et toi, t'as peur de ça. Parce que toi, tu sais que tout peut t'arriver. Tout peut tomber à l'eau à un moment donné. Tu sais, un combat amateur, c'est 9 minutes, hein, un combat olympique. 9 minutes, en 9 minutes, tu peux passer à côté de ton combat. Le premier round, il y a 3 rounds. Hein.
Oui, t'es pas dedans.
3 rounds, tu peux passer à côté direct. Là, 3 rounds, c'est plié, t'as rien vu, t'as perdu. Voilà. Et ça, c'est très dur. Donc, c'est pour ça que moi... même si je gagne et tout, que je continue à gagner, que je suis une acharnée de travail et je m'entraîne dur, faut rester quand même humble mais sûr de soi. Faut rester humble mais sûr de soi, c'est-à-dire que bien sûr j'y vais pour la qualif et j'y vais pour être championne olympique, hein, ça c'est plus que sûr d'ailleurs. Par contre, faut rester humble et tout et se dire que tout peut arriver en fait. Hein, tout peut arriver. On maîtrise pas ce qui peut se passer sur le ring ni dans d'autres sports. Et le sport en fait c'est ça, c'est que c'est l'imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des grands exploits sportifs dont on se souvient alors qu'on donnait perdant telle équipe et contre les All Blacks et puis finalement ils gagnent. Oh, ils ont gagné les All Blacks.
Bah, ouais, et puis c'est ça qui fait qu'aussi t'es pas complaisante.
C'est la beauté du sport,
quoi. Parce que voilà, tu peux toujours. Il y a toujours un risque quand même.
Mais c'est vrai que les défaites pour les sportifs, c'est très dur. On peut être en dépression après une défaite. Hein. Vraiment. C'est. faut être dedans pour le savoir, quoi. Et plus, je pense que plus on est haut, plus c'est dur.
Ouais. Mais je pense.
Ah, plus c'est dur. Moi, je crains la défaite. Je crains la défaite. Hein. Je préfère encore me blesser durement. Je sais pas, j'en sais rien. Mais une défaite, c'est un cauchemar, quoi. C'est un drame. C'est dramatique, pour de vrai.
J'ai pas envie de te dire ça va être facile parce que je sais pas vrai, mais bon, ça va y aller.
On verra bien.
Est-ce que s'il y avait quelque chose à refaire différemment dans ta vie, dans ton parcours, tu referais quelque chose différemment? Qu'est-ce que ça serait?
J'aimerais faire des études en fac. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, après le bac, je suis partie en école de police, ok. Mais parce que j'étais mal encadrée. Parce qu'à ce moment-là, quand on a le bac, on sent que finalement, on s'en sort pas si mal que ça. Oui, c'est bien d'aller faire des études. C'est bien parce qu'après, on peut s'en sortir différemment, tout ça, et c'est important. C'est important. Et j'ai ce regret-là, ouais, de pas avoir fait plus d'études que ça, alors que j'en aurais peut-être eu les capacités. Et je ne l'ai pas fait.
Oh bah ça, c'est clair.
Et donc, ouais, c'est un regret que j'ai. Ok, je suis une grande championne de boxe, c'est vrai. On me dit, oui, mais regarde, tu n'as pas fait ça, mais tu as fait ça.
Bah, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, ouais, j'ai ce regret-là un peu de... ouais, je pense que si on m'avait poussé, j'aurais fait, quoi. C'est comme tout. Et c'est vrai que j'étais un peu perdue à ce moment-là. J'ai dit, bon, j'y vais pas, je vais dans la police et tout. Tête baissée comme ça. je vais dans la police alors que non, c'est bon, de toute façon, voilà, c'est fait, mais ouais, ça, c'est quelque chose qui me reste un peu.
Bah écoute, il y a des études, tu vois, qui peuvent être prises plus tard et tout, donc on ne sait jamais.
Bien sûr, on verra bien.
Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation ou des mots de sagesse qui te plaisent particulièrement et que tu aimerais nous partager?
Moi, je dis souvent, on ne peut pas être et avoir été. C'est-à-dire que
être et avoir été,
c'est-à-dire que tu as beaucoup de boxeurs, je parle de la boxe, mais ça rentre dans le cadre de dans la vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que on a été champion, ok, mais on n'est plus champion. Il faut laisser la place aux autres. Et on veut pas arrêter sa carrière, on veut continuer à monter sur le ring, faire les combats en trop qui vont nous abîmer ou qui vont faire qu'aux yeux des gens on n'est plus le grand champion qu'on était, parce qu'on refuse de s'arrêter. Et il y a plein de champions qui ont fait les combats en trop parce qu'ils ont refusé de s'arrêter. Usain Bolt, quand il a fait sa dernière finale du 100 mètres, ok, tout le monde était là devant la télé, le pauvre et tout, c'est vrai. Alors que c'est Usain Bolt, avec tout ce qu'il a fait, il aurait pu s'arrêter là. C'est dommage. À un moment donné, il faut savoir, et c'est dur pour un champion dans n'importe quelle discipline, hein, de s'arrêter, de dire stop, j'ai eu ce que j'ai eu mon temps. Maintenant, il faut que j'arrête, il faut que je laisse la place aux autres. Ils ont beaucoup de mal et beaucoup dans la boxe, et ce qui fait que parfois, des fois, on voit des sportifs en dépression ou vraiment finir très mal après leur carrière parce qu'ils n'ont pas prévu l'après. Ils sont plus champions. Et ils sont plus champions. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite mort, entre guillemets, en soi-même. Hein. C'est une petite mort qu'il faut arriver à anticiper, quoi, pour ne pas être surpris au moment où ça arrive, quoi. Et ça va dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui n'assume pas de prendre de l'âge, par exemple.
Bien sûr.
On ne peut pas être et avoir été. À un moment donné, il faut accepter de vieillir, de passer les années, de passer son temps, de passer à autre chose.
Dans un business familial, tu sais, laisser la place aux plus jeunes.
Voilà, et on ne veut pas. On veut être toujours, alors qu'on ne peut plus être. Et c'est cette phrase-là, ouais, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, autant sur le ring, dans d'autres sports ou dans la vie de tous les jours. Et c'est assez, c'est quelque chose qui me touche parce que j'en vois beaucoup autour de moi des fois qui s'obstinent et tout, qui essaient qui veulent pas laisser passer le truc alors que c'est plus pour eux, quoi. Ils veulent pas tourner la page. Dur, c'est très dur. Voilà.
C'est très juste, en tout cas. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu pourrais recommander, qui t'ont particulièrement marqué? Ça peut être des biographies, ça peut être de la BD, de la littérature. J'ai tout eu, franchement, je peux te dire.
Tu as lu Mike Tyson?
Non, mais il paraît qu'il est vachement...
Mike Tyson. Ouais, donc j'ai lu son livre, Mike Tyson.
Et alors, ça t'a...
Très, très, très beau livre, parce qu'en fait... c'est là où on voit les failles d'un grand champion, hein. On voit ses failles aussi, et c'est quelqu'un, j'ai lu son livre, j'ai regardé son film aussi, on voit toutes ses faiblesses et son hypersensibilité. Quelqu'un, quand il fait une interview ou quoi, il pleure.
Ouais, il a l'air très sensible.
Ouais. Et pourtant, sur le ring, c'est un monstre et tout, et très sensible, et en fait, finalement, il a été mal encadré. C'est pour ça que j'en reviens tout le temps à ça, et moi je donnerais tout le temps ce conseil-là aux jeunes sportifs, c'est de faire attention et de bien s'encadrer, de bien s'entourer.
Trouver
les bonnes personnes. Pas forcément quelqu'un de sa famille, parce que souvent t'as des sportifs, ils s'entourent de membres de sa famille, c'est pas forcément bon, parce que c'est mélanger un peu tous les domaines, et c'est pas forcément, parce que l'affect prend le dessus des fois sur l'aspect sportif, l'aspect business, et ça faut pas trop quoi. Donc, mais il faut savoir bien s'entourer.
Et c'est quoi pour toi les quelques conseils, peut-être pour quelques personnes qui nous écoutent, qui pourraient être concernées, mais comment bien s'entourer justement, tu vois, c'est quoi les critères? En gros, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut ton développement long terme, c'est quelqu'un juste qui veut que tu gagnes. C'est finalement, tu vois, c'est pas facile, je trouve, de savoir comment bien s'entourer.
C'est sûr, c'est pas facile. Par exemple, mon premier entraîneur, il a plus joué un rôle d'éducateur, mais il s'en foutait de mes résultats. L'entraîneur de boxe anglaise, il était plus sur les résultats, mais lui, il n'aurait pas fait du tout l'éducateur. Mmh. C'est clair. Donc, ils sont arrivés au bon moment, l'un derrière l'autre. Très, très bon moment. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire, quand on sent que quelqu'un est pas forcément bon, il ne veut pas forcément notre bien, il faut savoir changer d'entraîneur, il faut savoir changer son entourage. C'est-à-dire, en boxe, par exemple, il faut savoir avoir un agent sportif, par exemple, qui défend ses intérêts. Et je parle dans le boxe, je parle dans d'autres sports. Hein. Il faut avoir un agent. Les entraîneurs n'apprécient pas forcément l'agent du sportif, parce que l'agent est là pour défendre l'intérêt du sportif. Mais ça permet au sportif de ne pas se retrouver tout seul, de ne pas se faire avoir, d'anticiper un peu l'après-sport et pas foncer tête baissée et se faire utiliser sans avoir de retour finalement. Et ça c'est super intéressant, hein. Et important quoi, parce que c'est le conseil que je donne aux jeunes, c'est qu'il faut savoir s'entourer, pas forcément que de sa famille, parce que ça sera pas forcément les meilleurs conseils, hein, quoi qu'on en dise, c'est pas forcément vrai, mais s'entourer d'agents, de personnes bienveillantes, en tout cas qui nous font du bien, qui nous font du bien et qui veulent notre bien et notre épanouissement, que ce soit dans ce sport-là ou dans autre chose, en fait. Vraiment pour ce qu'on est, en soi. Pas pour les personnes qui sont là juste quand il y a du résultat. Ça, il y en a tout le temps. Des personnes qui se rajoutent. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça, parce que même moi, qui suis quand même hypersensible, je me suis fait avoir plusieurs fois avec ça. Donc, je le sais à mes dépens. C'est que souvent, beaucoup de personnes sont là, voilà, quand on a le titre, on est bien. Voilà, j'ai toujours le titre, c'est vrai, mais ils sont là, tout ça. Puis on se rend compte que ce n'est pas forcément de la vraie amitié, que ce n'est pas forcément désintéressé, tout ça. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Il faut vraiment garder autour de soi quelques personnes, pas des masses de personnes, mais quelques personnes qui nous veulent vraiment du bien et bien s'entourer pour bien progresser dans sa carrière et dans des bonnes conditions. C'est important.
Je pense que c'est un excellent conseil et donc un très bon mot de la fin. Je te remercie mille fois, Maëva.
Merci.
Si on veut te retrouver, te suivre peut-être sur les réseaux sociaux et tout, je crois que tu as un compte Insta, si je ne me trompe
pas. C'est ça, Maëva Madouche Elveneno, mon surnom.
Exactement. Voilà. Et c'est tout, hein, principalement, je pense que Facebook, ou je ne m'en rends pas compte.
Oui, j'ai Twitter.
Twitter aussi. Twitter,
je suis pas mal sur Twitter aussi, pas mal présente sur Twitter. Et Facebook aussi, un peu moins sur Facebook, plus Twitter, Instagram et Facebook en dernier quoi.
En tout cas, c'était un grand, grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer, quelque chose, je sais pas, une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent, ou...
El Veneno, ça veut dire le poison, c'est, je l'ai pris par rapport au combat de boxe et tout ça, et comme j'admire les combattants mexicains, j'ai transformé le poison en El Veneno. C'est pour ça qu'on me dit souvent pourquoi El Veneno, parce que je vais être un poison sur le ring, et c'est pour ça que j'ai pris El Veneno. Pour l'instant, je le suis, donc c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai pris El Veneno, pour ceux qui se posaient la question.
Super, bah voilà. Écoute, merci pour cette précision.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.